Nous mourons de faim, pardon, nous mourons parce que nous mangeons trop, alors que là-bas, on meurt parce qu'on ne mange pas assez. Je veux vraiment dire, je suis convaincu que Dieu vous donnera aux uns et aux autres, et au centuple de ce que vous avez donné, et aussi que Dieu bénira cette Église. Nous avons, quand nous avons commencé la vision missionnaire, quand nous avons été conduits par le Seigneur à ce travail missionnaire, eh bien, nous avons vu l'Église se développer. Nous l'avons vu sur Grenoble, nous l'avons vu dans l'ouverture d'autres églises, et nous l'avons ensuite vu également en Afrique. Vous savez que ce sont trois pays que nous servons, le Tchad, le Centrafrique et le Zaïre. Et nous pouvons dire que c'est un miracle permanent qui est là. Humainement, ce n'est pas possible. Mais nous avons donc, il y a l'orphelinat au Tchad, une école chrétienne au Tchad qui tient avec des parrainages et aussi par les coopérants. Je dis cela, si vous faites votre service militaire, au lieu de faire votre service militaire ici en France, on peut vous utiliser comme coopérant chrétien, donc au collège chrétien du Tchad. Il y a également donc au Centrafrique et puis maintenant au Zaïre. Ce que j'aimerais donc vous dire, c'est que non seulement que Dieu est vivant, mais il est le Dieu du miracle. Et nous le voyons constamment, nous le voyons dans le domaine financier, nous le voyons surtout dans le domaine des conversions, des miracles, des prodiges. C'est vraiment le réveil en Afrique. Et je dirais qu'il y a une facilité dans l'évangélisation, une facilité dans la démonstration de puissance. Je rentre, j'étais donc à Pâques, là-bas, pour un séminaire national. Nous avions, rien que nous avons à Bangui, bon, je pense que André et Claudine vous l'ont dit, là-bas on ne parle plus que d'eux. Ils ont conquis les Centrafricains. Nous avons 25 églises à Bangui et maintenant 150, 53 ou 54 à l'intérieur. Et tous les mois, il y a au minimum une église de 200 membres qui se construit. Je ne sais pas si vous réalisez, le Centrafrique est particulièrement visité. Vous avez entendu parler d'Afrique du Sud, de certains pays comme le Zaïre, etc. Mais au Centrafrique, il y a quelque chose de particulier, c'est que ce sont des églises qui se construisent, qui se développent, qui s'installent. Au Zaïre, il y a beaucoup de problèmes, j'ose le dire, beaucoup de problèmes de corruption. Et je ne dis pas qu'au Centrafrique, ça n'existe pas, mais on se rend compte que l'œuvre de Dieu est beaucoup plus profonde, beaucoup plus authentique. L'Esprit de Dieu souffle, malheureusement le malin aussi, mais ce qui est de merveilleux à voir, c'est ces démons qui partent, ces délivrances, ces miracles extraordinaires, suite à des délivrances démoniaques, l'Évangile est en train d'engranger le maximum d'âmes pour le royaume de Dieu. Vous savez qu'il y a le temps actuellement sur la Terre, il y a autant, et je crois même plus de personnes qu'il y en a eu dans l'histoire de l'humanité. Et cela vous explique que Dieu est en train d'emmagasiner, d'engranger des centaines et des milliers d'âmes au Seigneur par jour. Et Dieu est en train de sauver, de faire un miracle extraordinaire en Afrique, tout ce continent africain qui est particulièrement visité par Dieu. Vous avez également d'autres régions du globe, mais tout particulièrement j'aimerais souligner et remercier le Seigneur pour cette action qu'il fait là-bas. Et cette action dont je suis convaincu vous allez bénéficier des effets, parce que lorsqu'on s'implique ainsi dans l'œuvre de Dieu, Dieu n'est le débiteur de personne. Alors que Dieu vous bénisse. Vous avez également les salutations de Grenoble. Grenoble, ville olympique, où nous avons été aussi très heureux de recevoir André et Claudine. Et nous remercions le Seigneur pour le bien qu'ils nous ont apporté, tant par la communion fraternelle, leur gentillesse, et puis aussi ce que le Seigneur leur a donné dans leur ministère. J'aimerais ce matin, si vous me permettez, parler d'un point particulier. Peut-être n'avons-nous pas tellement l'habitude d'en discuter, je crois que de temps en temps c'est bon. J'aimerais ce matin nous aider les uns et les autres à nous centrer sur ce qui nous attend dans l'éternité. Vous savez que nous sommes, le grand problème actuellement, vous m'excuserez si pendant ces quelques jours je vais être un petit peu très radical, peut-être très concret, très pratique, j'aimerais dire que, vous savez, je voyage pas mal et je me rends compte que le peuple chrétien est un peuple terriblement matérialiste. Et sa conception ou sa façon de vivre matérialiste en a fait qu'il a un évangile matérialiste, une conception matérialiste des choses. Se tourner vers Dieu, c'est pour être béni. Se tourner vers Dieu, c'est pour être guéri. Se tourner vers Dieu, c'est recevoir des exaucements de prières. Se tourner vers Dieu, marcher avec Dieu, c'est être heureux dans la vie. C'est avoir son frigo rempli, c'est avoir un emploi, c'est avoir toutes sortes de choses. C'est avoir une femme, c'est avoir un mari, c'est avoir des enfants, etc., etc. Je ne dis pas que Dieu ne donne pas ces choses. Mais j'aimerais rappeler ce matin que ce que Dieu est en train de faire, c'est chercher des hommes, des femmes, des jeunes gens, des jeunes filles, de toute race, de toute langue, pour les préparer à son règne éternel dans le ciel. J'aimerais rappeler que lorsque Salomon a construit son temple, chacune des pierres n'était pas taillée, était taillée dans la carrière au loin. Mais quand ces pierres étaient amenées à l'emplacement du temple, on n'entendait plus de bruit. Les pierres étaient taillées dans un autre endroit, mais c'était sans bruit qu'on ajustait les pierres aux autres pour former le temple. Et j'aimerais rappeler que cette terre sur laquelle nous nous trouvons est la carrière de laquelle Dieu nous a taillé, vous et moi, et il continue à nous tailler, à nous façonner, à nous émonder, à nous transformer, à nous préparer, à nous former pour qu'au jour de notre résurrection dans le ciel, et à ce moment-là nous fassions cette Jérusalem céleste, construite, formée, façonnée, où chacun d'entre nous, pierre vivante, auront notre place. Mais ce que j'aimerais dire, c'est selon la possibilité que nous offrons à Dieu de nous préparer pour l'au-delà que nous aurons la place correspondante là-haut. Il y a tellement de chrétiens, et j'aimerais vraiment balayer cela si vous l'avez dans votre pensée, il y a tellement de chrétiens qui pensent que vivre n'importe comment, eh bien, il suffit que j'ai une petite larme, un petit sentiment pour le Seigneur, eh bien, le sang de Jésus m'a lavé, le sang de Jésus m'a purifié, alléluia Seigneur, je ressusciterai, je serai avec toi dans la gloire et je régnerai avec toi. Je voudrais vous poser une question. Pensez-vous que, est-ce que vous iriez voir un médecin qui n'a fait qu'une année d'études de médecine? Vous savez, je suis un ancien étudiant et je faisais droit et sciences politiques et j'avais des copains qui faisaient des études de médecine. Mais au lieu de travailler, ils passaient leur temps dans les boîtes de nuit avec moi, c'est pour ça que j'en suis sûr. Et je leur disais toujours, ce n'est pas avec chez vous que j'irai me faire soigner. Est-ce que vous pensez que Dieu va confier à des chrétiens le gouvernement du monde s'ils n'ont pas accepté de se laisser former pour cela? Et là, je crois que nous devons prendre conscience. Il y en a tellement qui sont un peu iréniques, qui croient que là-haut, ils vont régner alors qu'ils n'ont rien fait sur la terre. Ils croient qu'ils vont régner, ils vont croire qu'ils vont avoir des autorités extraordinaires. Alors, tout le monde aime bien les versets, « Tu commanderas sur 10 villes, tu commanderas sur un pays. » Ça, nous le connaissons. Mais j'aimerais vous dire, vous n'aurez de l'autorité que selon la mesure où vous aurez accepté de vous former et de combattre et de payer le prix ici sur la terre. Je voudrais dire ce matin que nous pouvons être sauvés comme au travers du feu. Mais en ce qui concerne le règne, en ce qui concerne l'autorité, en ce qui concerne la place que nous aurons dans l'éternité, c'est vous et moi qui nous la faisons sur la terre, selon notre engagement et selon nos actions envers Dieu. Et c'est de cela que j'aimerais parler ce matin. J'aimerais vous proposer d'ouvrir vos Bibles dans le prophète Daniel au chapitre 12. Daniel chapitre 12 à partir du verset 1er. Je vais prendre la version français courant. L'ange me dit encore, dans Daniel 12 verset 1, l'ange me dit encore, en ces temps-là paraîtra Michel, le chef des anges, le protecteur de ton peuple. Ce sera un temps d'angoisse comme il n'y en aura jamais eu depuis qu'une nation existe et jusqu'à ce moment-là. Alors seront sauvés tous ceux de ton peuple dont le nom sera inscrit dans le livre de vie. Beaucoup de gens qui dorment au fond de la tombe se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur ou pour le jugement éternel. Les gens intelligents rayonneront de splendeur comme la voûte céleste, et ceux qui auront aidé les autres à être fidèles, ou ceux qui auront enseigné les autres, brilleront pour toujours comme des étoiles. Dans l'évangile de Jean, encore au chapitre 5, c'est Jésus qui parle, et au verset 29, Jean 5, verset 29, « Ne vous étonnez pas, car le moment vient où tous les morts qui sont enterrés entendront sa voix et sortiront de leur tombeau. Ceux qui ont fait le bien ressusciteront pour recevoir la vie, mais ceux qui ont fait le mal ressusciteront pour être condamnés. » J'aimerais là donc, dès le premier point, parler de deux sortes de résurrection. Vous savez, vous et moi, nous ressusciterons. Nous résistons, vous ne pouvez pas empêcher votre propre résurrection, que vous soyez chrétien ou que vous ne le soyez pas, que nous ne le soyons pas, chaque homme, chaque femme, un jour ressuscitera. Mais les uns ressusciteront pour la vie éternelle, tandis que les autres ressusciteront pour la damnation éternelle. Quelqu'un a dit que que l'éternité était très longue quand on est mal placé. Et j'aimerais rappeler ce matin que la résurrection est quelque chose de réel. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier, a dit Jésus, s'il perd son âme? À quoi cela vous servirait-il d'être riche, d'avoir une position honorée, d'avoir réussi dans la vie et d'être perdu et de rater le coche pour l'éternité? 150 années de votre vie, c'est zéro en comparaison à l'éternité. Et quand on voit le nombre de chrétiens qui investissent pour la vie leur temps, leur argent, leur effort, leurs affections, et qui ratent ce pour quoi ils sont destinés, on se demande si le peuple de Dieu est intelligent et s'il a réellement de la sagesse. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Mais j'aimerais encore aller plus loin. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 20, il nous est parlé de deux sortes de résurrection. Il y a parlé de la première et de la deuxième résurrection. La première résurrection est la résurrection des justes qui se partagent en deux. C'est la rencontre, c'est lorsque le Seigneur vient sur les nuées, les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants, dit l'apôtre Paul, nous serons transformés en un clin d'œil et nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et là, à la rencontre du Seigneur dans les airs, ce sera les noces de l'agneau, pendant que la terre est livrée à l'Antéchrist, est livrée à la puissance du mal. Mais pendant ce moment de tribulation sur la terre, des hommes et des femmes se convertiront encore. Et lorsque Jésus alors viendra poser en ses pieds sur la montagne des Oliviers, arrêtant le carnage et la destruction de la terre, lorsqu'il viendra avec ses saints, eh bien ces morts qui auront donné pendant la tribulation leur vie par amour pour le Seigneur pendant cette grande tribulation, ces morts également seront unis à ceux qui viennent avec le Seigneur et font partie de cette première résurrection. Mais la Bible nous dit que pendant le règne de 1000 ans qui va suivre, les autres morts, c'est-à-dire ceux qui ne font pas partie de la première résurrection, cela reste. Et après ce moment de millénium, alors les morts ressusciteront, les morts pour le jugement. Et cela, alors la terre rendra les morts, l'océan rendra les morts, le séjour des morts, et tous seront jugés. Et tous ceux qui ne seront pas inscrits dans le livre de vie de l'agneau, eh bien, seront jetés ainsi dans les temps de feu et de soufre, et avec le diable et ses anges. Il y a là quelque chose d'important. Le plan de Dieu pour vous et pour moi, pour chaque être humain, la Bible nous dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le désir de Dieu, c'est d'arracher chaque homme à la perdition éternelle. Lorsqu'il y a 2000 ans, le Christ est venu dans une nature semblable à la nôtre, excepté le péché. Lorsqu'il a été cloué sur la croix, la Bible nous dit qu'il a pris en son corps nos péchés sur le bois pour que par sa mort, vous et moi, nous ayons la vie. Le Christ est mort pour que nous puissions être sauvés de la damnation éternelle. Et le Christ est ressuscité et il est venu habiter en nous et il veut venir habiter en chaque être humain pour nous ressusciter déjà avec lui dans la vie éternelle en ce qui concerne notre nouvelle naissance. Mais aussi, nous avons les prémices de cette résurrection de nos corps qui un jour seront glorifiés lorsque nous irons à la rencontre du Seigneur. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est qu'il y a deux sortes de résurrection pour la vie et pour la damnation éternelle. La première, c'est la première résurrection. La deuxième, c'est la résurrection devant le jugement, devant le grand trône blanc, où tous ceux qui n'étaient pas inscrits dans le livre de vie furent jetés au dehors. Mais ce qui est tragique également, c'est que des livres furent ouverts et selon le bien, selon le mal que nous aurons fait, eh bien, nous aurons les sanctions en conséquence. Ce que je veux encore dire là en introduction, c'est que la parole de Dieu nous montre que nous pouvons, et c'est là le thème que je voudrais aborder ce matin, la parole de Dieu nous dit que nous pouvons être sauvés lorsque nous croyons en Jésus-Christ. Mais ce que j'aimerais souligner ce matin, c'est qu'il y aura des différences dans nos résurrections. Vous n'aurez pas forcément la même résurrection que moi. Je n'aurai pas forcément la même résurrection que vous. Et ce que j'aimerais souligner ce matin, c'est le désir de Dieu que vous travaillez pour la meilleure des résurrections. Et pour illustrer cela, nous prendrons dans Hébreux 11, Hébreux chapitre 11, Hébreux chapitre 11, à partir du verset 35, d'autres ont été torturés à mort, ils refusèrent la délivrance afin d'être ramenés de la mort à une meilleure résurrection. D'autres encore, ou une meilleure vie, dit la version ici, mais l'autre texte, second dit une meilleure résurrection. D'autres encore subirent des moqueries, des coups de fouet, certains furent liés de chaînes et jetés en prison, certains furent tués à coups de pierre, d'autres sciés en deux ou mis à mort par l'épée. Ils allaient d'un endroit à l'autre, vêtus de peau de mouton et de chèvre, pauvres, persécutés et maltraités, eux dont le monde n'était pas digne. Ils erraient dans les déserts et les montagnes, ils vivaient dans les cavernes et les trous de la terre. Tous ces hommes ont été approuvés par Dieu à cause de leur foi. Pourtant, ils n'ont pas reçu ce que Dieu avait promis. En effet, comme Dieu avait promis mieux encore pour nous, il n'a pas voulu qu'il soit rendu parfait autrement qu'avec nous. C'est une forme de version, mais traduction. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que la Bible parle d'une... Certains refusèrent d'être délivrés pour avoir part à une meilleure résurrection. Mes amis, la Bible nous montre que les récompenses vont nous suivre. Vous savez, il y en a qui pensent qu'on n'a pas de récompense. Si. Selon la mesure de votre engagement en tant que chrétien sur la terre, selon la façon dont vous aurez investi votre vie, votre temps, votre argent et vos biens et vos loisirs, c'est dans cette mesure-là les récompenses vous suivent. Et ces récompenses vont vous permettre d'avoir une meilleure résurrection. Et c'est là qu'on comprend un petit peu le manque d'inconscience, l'inconscience des gens qui investissent tout leur temps pour la terre et qui ratent alors une meilleure résurrection. J'aimerais ce matin rappeler que le désir de Dieu, c'est que vous ayez la plus belle des résurrections, la meilleure des résurrections, que vous êtes invités à travailler, à collaborer, à foncer pour avoir la meilleure résurrection, parce que plus tard, il y aura des regrets que vous ne pourrez jamais plus rattraper. Il y aura des larmes, il y aura des regrets, mais ce sera trop tard. Oh, puissiez-vous comprendre ce désir du Saint-Esprit de vous aider à avoir, à vous préparer, à travailler pour une résurrection meilleure. C'est des choix que nous sommes appelés à faire toute notre vie. Mais ce sont des choix qui nous suivent dans l'éternité. Les bénédictions que vous pouvez avoir, les avantages que vous pouvez avoir aujourd'hui, ne vous suivent pas forcément dans l'éternité. Vous pouvez recevoir des bénédictions aujourd'hui, mais si vous les avez aujourd'hui, vous ne les aurez plus après, dans l'autre côté. Nous devons comprendre, et c'est là que j'aimerais, quand j'ai dit tout à l'heure, ce côté matérialiste du monde chrétien, finalement on a réduit l'évangile, donne ta vie à Jésus, tu seras heureux, il va te bénir, il va te garder, il va te guérir, il va te faire ceci, c'est le bon papa gâteau, il suffit de lui donner ça de notre vie, alors il va être à notre service. Je voudrais vous dire que l'évangile n'est absolument pas cela. L'évangile te dit que tu es ennemi de Dieu par tes œuvres et par tes mauvaises pensées. L'évangile, c'est dire que tout homme a besoin de se repentir devant la sainteté de Dieu. L'Évangile dit que chaque homme est pécheur, qu'il n'y a pas de juste, qu'il n'y a pas un seul. Et que la colère de Dieu repose sur l'humanité. Et l'Évangile te dit, si tu veux échapper à la colère de Dieu, il faut que tu te convertisses, il faut que tu te repentes de tes péchés, il faut que tu reconnaisses que tel que tu es, ta destinée c'est l'enfer. Mais que Dieu t'a tant aimé qu'il a voulu t'arracher de cet enfer et de ta vaine manière de vivre. C'est ça l'Évangile. L'Évangile n'est pas seulement venir vers Dieu pour être béni, l'Évangile c'est d'abord accepter de capituler devant Dieu et de réaliser que Dieu est mon Seigneur et mon Sauveur. L'Évangile c'est abdiquer, et on a trop de gens qui viennent à Dieu uniquement pour être bénis, qui n'ont pas compris que la première chose que Dieu leur demande, c'est d'abdiquer et de se soumettre à son autorité et à sa volonté. Mes amis, nous avons désespérément besoin de retrouver réellement la puissance de Dieu, et cette puissance de Dieu au milieu de nous dans nos vies ne passera pas par un autre chemin que l'abdication de nos volontés propres, notre soumission entière, totale, à la Seigneurie de Jésus-Christ, alors nous verrons la gloire de Dieu. Il y a trop de chrétiens qui désobéissent. Pourquoi y a-t-il tellement de chrétiens qui sont malades, qui n'arrivent plus à s'en sortir? Je ne dis pas que c'est toujours le cas, mais pourquoi y a-t-il des chrétiens, très peu de chrétiens heureux? Pourtant nous avons le don du Saint-Esprit, pourtant nous avons la parole de Dieu, pourtant nous avons les anges qui nous gardent, pourtant nous avons expérimenté bien des bénédictions, bien des promesses de Dieu. Pourquoi? Parce que beaucoup de chrétiens sont désobéissants. Parce que notre civilisation est une civilisation de laxisme. Parce que nous avons une civilisation de compromis. Chacun fait ce qui lui semble bon. Mes amis, pourquoi est-ce que je souligne ces choses? Pour vous donner conscience, ou plutôt la vision, d'une meilleure résurrection. D'une meilleure résurrection. C'est dommage de rater une éternité alors que Dieu a prévu pour nous une part belle et glorieuse. Je ne dis pas que Dieu n'a pas la bénédiction pour nous, mais cette bénédiction passera toujours par la consécration, par l'abandon de notre vie à la Seigneurie et à l'autorité absolue de Dieu. Puis-je vous rappeler que Jésus a dit que le Seigneur, le Père, donne le Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Vous savez, je rencontre, je pense que c'est partout pareil, vous savez, on rencontre plein de gens qui veulent que Dieu les visite, qui veulent que Dieu les touche, qui veulent régner avec le Seigneur. Mais ce qui compte, c'est ce que nous laissons le Seigneur faire dans nos vies, au fond de nous-mêmes. Et c'est dans la mesure où nous le laissons agir et que nous nous soumettons à son désir de nous transformer, de nous préparer, que nous verrons la gloire dans notre vie. Vous savez, je ne prêche pas là un ascétisme, je ne prêche pas là une religion dure, légaliste, absolument pas. Mais nous devons nous rappeler que la vie de l'esprit, la vie de la résurrection, la vie de la plénitude ne vient que dans la mesure où nous acceptons de mourir à nous-mêmes. Alors la vie de résurrection vient. Si le grain de blé meurt, alors il porte du fruit. Si nous sommes centrés sur nous, ça n'ira pas loin. Mais si nous acceptons de nous centrer sur Jésus-Christ, de vivre pour lui, de vivre pour sa gloire, de vivre pour les autres, alors mes amis, nous connaîtrons, parce que lorsqu'on se donne à Dieu, Dieu se donne totalement à nous. Et c'est la clé. Mais nous vivons une société de consommation. Et cette société de consommation, cet esprit de consommation, d'égocentrisme, toujours attirer la couverture à soi, cet esprit est rentré dans l'église de Jésus-Christ. Et on vous dira, plus vous êtes riche, plus vous êtes béni. Plus vous êtes béni. Mais non, vous êtes béni dans la mesure où vous êtes semblable à Christ et où le Christ est vu au travers de votre vie. Oh, puissions-nous ce matin comprendre. Alors j'aborde mon sujet là, hein. Une meilleure résurrection. Comment est-ce qu'on peut obtenir, afin d'obtenir une meilleure résurrection, comment peut-on l'obtenir? Tout simplement en y croyant par la foi. Si je ne crois pas à cette possibilité d'avoir une meilleure résurrection, si j'ai une conception médiocre de mon héritage, si je suis un homme ou une femme qui a un horizon limité, qui n'arrive pas à concevoir que Dieu veut des choses grandes et belles dans l'éternité, que le Seigneur veut régner, veut que je participe à son règne, veut que je gère l'humanité tout entière avec lui, ce cosmos infini, Dieu va m'intégrer dans son règne. Il faut avoir cette vision-là, je me prépare pour cela. Je veux vivre ces choses-là, je veux régner avec le Christ, je veux foncer avec lui. L'éternité ne sera pas une vie contemplative, chacun sur son hamac en train d'attendre que ça tombe. Absolument pas. Ça sera une vie active où chacun d'entre nous, dans les choses que nous n'aurons pas pu faire, parce que la vie nous les aura bloquées, le potentiel, ce pourquoi nous étions faits, les talents que nous n'avons pas pu développer dans cette vie présente, eh bien nous les développerons pleinement et spirituellement dans cette éternité où nous régnerons avec le Seigneur. Mais c'est une chose merveilleuse, mes amis, que la gloire à laquelle nous sommes destinés, est-ce que vous allez la rater en investissant pour des choses que vous ne pourrez jamais garder? Vous êtes venus nus, vous repartirez nus. Oh, puissions-nous comprendre ce matin la vision céleste. Puisse l'Esprit de Dieu ce matin nous révéler cette vision céleste à laquelle il veut nous faire pénétrer jusque dans l'éternité. La foi, c'est le premier critère. Par les choses que nous faisons. Ne pensez pas, là aussi, si vous voulez, ne pensez pas qu'en vivant comme n'importe qui, vous aurez ce que d'autres ont parce qu'ils se sont engagés avec Dieu. C'est faux, c'est un mensonge, Dieu ne serait pas juste. Si Dieu donne la même chose à un homme ou à une femme qui s'en fiche de sa dernière chemise des âmes qui se perdent, et qu'il donne la même chose à un chrétien engagé qui met tout son temps pour évangéliser les âmes, je dis que Dieu n'est pas juste. Oh mon Dieu n'est pas juste, il ne va pas récompenser des fainéants et handicaper ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Ce n'est pas ça, c'est pas ça l'Évangile. L'Évangile nous dit, travaille le salut que tu as reçu avec persévérance. Travaille, mets-toi au travail. Il faut comprendre que l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de paresse, mais il est venu habiter en nous pour que nous le mettions au travail. 3300 personnes meurent chaque jour. Ils vont en enfer. Non, qu'est-ce que je disais? 80 000 personnes meurent par jour et 3 300 personnes meurent par heure. C'est-à-dire que depuis que nous avons commencé ce culte, il y a 7 000 personnes qui sont parties en enfer. Nous distribuons des traités à droite, à gauche, selon en large. Les gens ici en Europe sont gavés de traités. Et vous avez des pays en Afrique qui n'ont jamais entendu un seul traité, ils n'ont jamais entendu parler de Jésus. C'est une honte, je vous le dis de tout mon cœur. C'est une honte, nous nous gargarisons de la marche avec Dieu, alors qu'il y a des millions et des millions et des millions et des millions d'âmes qui chaque année vont en enfer sans qu'on se mette en peine. Mes amis, vous croyez que Dieu va bénir les chrétiens dans l'éternité parce qu'ils n'auront pas fait leur travail? Ce n'est pas juste. Mon Dieu est un Dieu juste. Oh, puissiez-vous ce matin comprendre ce à quoi je voudrais vous pousser, à réaliser que votre vie présente n'est rien en comparaison de l'éternité. Je voudrais vous pousser à investir réellement pour Dieu et pour le salut des âmes, afin que vous puissiez avoir une meilleure résurrection, afin que vous ne soyez pas un être médiocre dans l'éternité. Est-ce que vous croyez que Dieu a prévu pour vous une vie d'éternité médiocre, un médiocre? Ce n'est pas possible, ce n'est pas pour ça qu'on a été fait. Vous savez, un jour quelqu'un m'a dit, moi, c'est ma femme qui s'occupe de la religion. Le jour où elle sera enlevée, je m'accroche à sa jupe et je partirai avec elle. Il y a des maris qui sont comme ça. Oui, je dis, mais... Chacun rendra compte pour lui-même. Mes amis, est-ce que vous réalisez ce à quoi je veux vous amener? Les choix que vous faites, les choix que je fais, les choix de chaque jour. Il y a, en un mot, ce qu'il y a de bon, mais j'aimerais ce matin vous rappeler qu'il y a ce qu'il y a de meilleur. Vous choisissez quoi? Ce qui est bon? Ou dans votre vie chrétienne, vous choisissez ce qui est meilleur? Vous voulez une résurrection? Ou vous voulez une meilleure résurrection? C'est entre ces deux choses que j'aimerais vous placer ce matin. Dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 3, on ne va pas le lire, au verset 7, Paul dit qu'il a renoncé à tout. Vous savez, maintenant, on nous présente un évangile qui vous donne tout, et Paul nous dit, lui, j'ai renoncé à tout. Alors, il faut écouter qui? Il faut écouter quoi maintenant au XXe siècle? Il faut écouter qui? Il faut écouter comment? Il faut écouter quoi? Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter ceux qui ont laissé un exemple afin que nous suivions leurs traces. Paul dit, j'ai renoncé à tout afin de gagner Christ et la communion de ses souffrances, ainsi je connaîtrai également la puissance de sa résurrection. Il y a une puissance de vie dans la résurrection. Il y a non seulement une résurrection meilleure, mais il y a déjà sur cette terre, cette communion, cet esprit de puissance qui est l'esprit de la résurrection. Car l'apôtre Paul dira, si Christ est en vous, si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il donnera aussi la vie à votre corps sujet à la mort ou à votre corps mortel. Oh, puissions-nous comprendre que Dieu nous donne l'expérience de la vie de résurrection déjà sur la terre. C'était à nous l'esprit du Christ, l'esprit de la résurrection. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement peu de chrétiens qui expérimentent l'effusion du Saint-Esprit jour après jour, qui sont heureux de vivre, qui sont libres, qui sont forts, qui peuvent se mesurer au diable, qui peuvent se mesurer au monde? Pourquoi? Pourquoi y en a-t-il tellement peu? Parce qu'ils n'ont pas renoncé. Ils n'ont pas renoncé. Ils veulent garder le monde, ils veulent garder Dieu. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas servir de maître. Mes amis, je vous dis ces choses ce matin, non pas pour vous condamner, mais simplement pour vous montrer que la clé de la bénédiction, c'est passer par le renoncement. Mais pour que nous acceptions de renoncer, il faut savoir qu'on va gagner quelque chose. Un athlète, pour avoir sa couronne, il sait qu'il faut d'abord commencer par l'entraînement. Mais il y va, il accepte toutes sortes de privations, parce qu'il sait qu'il va avoir la couronne. Eh bien, nous aussi, nous acceptons beaucoup de renoncements. Vous croyez que c'est amusant? Savez-vous, en tant que vous allez dire, oui, mais il cause. Donc vous croyez que c'est amusant d'être toujours à droite, toujours à gauche, jamais à la maison, pas de vie de famille. Le peu d'argent qu'on a, c'est ailleurs, et je pense que tous les serviteurs de Dieu, on est comme ça. Vous croyez que c'est amusant? Mais on fait tout cela par amour pour Christ, et parce qu'on sait que Christ nous aime. Mais aussi parce que nous avons fait un choix. On veut, moi je travaille pour une meilleure résurrection. Sinon je retourne dans les boîtes de nuit, sinon je retourne faire ma fête. Ça ne vaut pas la peine. Mais si réellement j'ai été saisi par Christ, alors je cours et je le saisis. Et je marche en avant parce que je veux vivre la glorieuse, la meilleure, celle vers laquelle je tends le plus, la meilleure des résurrections pour moi.